Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 27 novembre, le nouveau en même temps d'Emmanuel Macron face à la colère des Gilets jaunes.
Ce que je veux faire comprendre aux Français, et notamment à tous ceux qui disent en quelque sorte, on l'entend le président de la République, on l'entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, mais nous on parle de la fin du mois. C'est que nous allons traiter les deux, et que nous devons traiter les deux.
Les Gilets jaunes seront reçus tout à l'heure par le ministre de la Transition écologique et ils seront associés à une grande concertation qui va durer 3 mois. Le chef de l'État annonce la fermeture de 12 réacteurs nucléaires d'ici 2035 et annonce le retour d'une taxe plus fluctuante sur les carburants. Il garde le cap mais change de méthode, décryptage à suivre et réaction de Pascal Canfin de l'association WWF qui siège, lui, au nouveau Haut Conseil pour le Climat. Dans RTL Midi aussi, les préservatifs remboursés sur prescription médicale. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, veut aider à la lutte contre le sida en ciblant les jeunes. Waze et Coyote pourront continuer à signaler les radars. Pas de restrictions, c'est une information RTL. Ça ne figure pas finalement dans le projet de loi mobilité. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour
encore
à tous.
Encore une bonne petite rincée.
Exactement, qui revient par l'ouest. Il y a une petite accalmie ce matin. Il y a encore un peu de soleil sur Paris. Profitez-en parce que dans les 2 heures qui arrivent, ça sera de nouveau de la pluie. La pluie qui va recouvrir donc toute la moitié ouest avec du vent assez fort près de la Manche jusqu'à 70-80 km/h. Dans l'est sera un peu l'inverse. Après une matinée où on a eu encore quelques averses, ça devrait être un peu plus sec, mais avec beaucoup de nuages. Non, le soleil, on le trouvera dans le sud, à coup sûr, entre les Pyrénées et la Méditerranée, où on aura beaucoup de vent, Mistral et Tramontane, frôlant les 90 km/h dans la basse vallée du Rhône. Et puis, côté température, ça reste frais, 2 à 4 degrés seulement en plaine d'Alsace, 6 à 8 degrés dans les autres régions, et un peu plus de 10 degrés quand même en Bretagne ou encore près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr. Le gouvernement a-t-il raison de recevoir les représentants des Gilets jaunes? Vous dites oui à 75%, 20% de non. On attend vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle. La grande concertation qui va durer 3 mois. On a le sentiment qu'elle aurait pu durer 3 heures, voire 3 minutes, parce qu'on sait assez bien ce que veulent les Gilets jaunes, depuis qu'on les entend depuis 15 jours. En tout cas, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Est-ce que le président vous a convaincu entre 13h et 14h? Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Quelles sont les propositions, puisqu'il a demandé que les Gilets jaunes soient force de proposition. On en parle entre 13 et 14 heures.
RTL Midi.
Le « je vous ai entendu » d'Emmanuel Macron, donc aux Gilets jaunes. Au début de son discours, qui a duré 1 heure, il s'est adressé aux manifestants. « Je ne confonds pas les casseurs », a-t-il dit, avec des citoyens qui veulent faire passer un message. Mais il ne change pas de cap sur la transition écologique et ne renonce pas aux taxes. Il a présenté son programme de transformation pour se désintoxiquer des énergies fossiles. Virginie Garin, bonjour.
Bonjour.
Le président annonce la fermeture de 12 réacteurs nucléaires, en plus des 2 de Fessenheim.
Oui, ce n'est pas finalement le scénario le plus pro-nucléaire qui a été retenu. La France réduira bien la part du nucléaire à 50% de son électricité en 2035 et donc fermera 14 réacteurs. Mais pas tout de suite. À part Fessenheim, ce sera au moins après 2025. Donc, s'il était réélu, Emmanuel Macron pourrait n'avoir aucun autre réacteur à fermer sous ses 2 mandats. Et puis, il souhaite en construire de nouveaux, car selon lui, le nucléaire est utile.
Le nucléaire nous permet aujourd'hui de bénéficier d'une énergie décarbonée et à bas coût. Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai cet engagement. Je demande donc à EDF de travailler à l'élaboration d'un programme de nouveau nucléaire.
Alors, pour se désintoxiquer du pétrole, la France va aussi développer le solaire. Il y en aura 5 fois plus en 2030, 3 fois plus d'éolien, développer le gaz à base de méthanisation de déchets agricoles et puis réduire la consommation d'énergie en isolant mieux les bâtiments et en inventant des véhicules plus propres. Il faut maintenant attendre les détails pour savoir comment y arriver.
Et puis, Virginie, pour calmer les impatiences des Gilets jaunes face à ce qu'il appelle une taxe aveugle, il promet un système plus souple.
Oui, comme Lionel Jospin en 2001 l'avait instauré, une sorte de TIPP flottante. Dès que le pétrole augmente, l'État réduit un peu la part des taxes qu'il prélève. Alors là, le montant de la taxe serait ajusté tous les 3 mois. C'est en tout cas ce qu'avaient proposé des députés de la majorité. Donc la taxe carbone serait maintenue. L'augmentation prévue en janvier aurait lieu. Mais si le prix du pétrole grimpait à nouveau, l'État l'adapterait pour réduire un peu la facture à la pompe.
Merci Virginie. Le chef de l'État a plaidé pour une écologie populaire et lance une grande concertation donc au niveau local avec des élus, des associations et des gilets jaunes pour trouver des solutions concrètes et simples. Mais fondamentalement, Vincent Derosier, Emmanuel Macron ne change pas de cap.
Oui, comme prévu, pas de renoncement sur les taxes carburants, pas de cadeau de Noël aux gilets jaunes. La colère, Emmanuel Macron l'entend, mais il refuse de revenir sur ses engagements.
Je ne confonds pas les casseurs avec des concitoyens qui veulent faire passer un message. Je sais que les habitués de la politique attendent de moi un renoncement, une esquive, bref, de laisser en quelque sorte le présent prévaloir sur le futur. Nous devons donc entendre les protestations d'alarme sociale, mais nous ne devons pas le faire en renonçant à nos responsabilités pour aujourd'hui et pour demain.
Alors le président sait bien qu'un discours ou qu'une mesure ne calmeront pas la colère. Alors il mise sur le dialogue, une grande concertation, vous l'avez dit, partout en France. C'est la promesse, 3 mois pour que des solutions concrètes ne soient pas seulement décidées sur un coin de table à l'Élysée, mais partout sur le territoire.
Je refuse que s'installe une France à 2 vitesses. Je refuse aussi que la transition écologique accentue les inégalités entre territoires et rende plus difficile encore la situation de nos concitoyens qui habitent en zone rurale ou en zone périurbaine. Je souhaite que partout sur le territoire, cette décision de concertation puisse être déclinée et qu'ainsi les représentants des Gilets jaunes, dans chaque région, puissent également y prendre part et proposer des solutions.
Et les représentants des Gilets jaunes, justement, seront reçus non pas à l'Élysée, mais au ministère de l'écologie. Ils rencontreront François de Rugy mardi. Le dialogue qui se faisait jusqu'ici par médias interposés va enfin pouvoir se faire autour d'une table.
Vincent Derosier en direct de l'Élysée pour RTL. Alors qu'en pensent justement les Gilets jaunes du discours d'Emmanuel Macron ? Samuel Goldschmidt, vous venez de suivre l'intervention du chef de l'État auprès de quelques-uns d'entre eux à Ligny-en-Barrois, dans la Meuse, des Gilets jaunes qui étaient réunis autour de la voiture RTL. Alors ont-ils été convaincus ?
Alors, ils étaient tous réunis autour de la voiture au début.
Je refuse aussi que la transition écologique accentue les inégalités entre territoires.
Mais il faut bien dire que le petit groupe s'est égayé assez vite, même si l'on débat hein, sur le plan de mobilité en milieu rural, par exemple.
Des gens comme moi qui bossent en restauration, vous voulez faire quoi à 11h30, minuit le soir? Il n'y a plus de bus? Vous voulez faire comment? Voiture, automatiquement.
Et il n'y a rien de neuf sur l'accompagnement à la transition énergétique.
Ils proposent toujours des choses, mais que les pauvres gens qui n'arrivent déjà pas à avoir 1000 euros à la fin du mois, il faut qu'ils rajoutent des sous. Comment ils font ces pauvres gens? Là, il est en train d'endormir tout le monde. Il parle d'écologie, c'est normal. Tout le monde est pour l'écologie. Qui peut être contre l'écologie? Par contre, il n'apporte aucune solution pour les classes moyennes et les classes pauvres.
Sur leurs revendications concrètes, rien non plus.
La CSG pour les personnes âgées, entre autres. Les personnes âgées n'y arriveront pas, c'est tout. On leur pique de plus en plus d'argent en fin de mois, puis ça y est.
Et très étonnamment, c'est le président lui-même, dans son discours, qui résume très bien la manière dont il est reçu.
Je veux bien comprendre ce que vous nous proposez, mais vous ne m'apportez pas de solution.
Reportage Samuel Goldschmidt en direct. Merci Samuel. La crise des Gilets jaunes, sachez-le, atteint la confiance des ménages. Elle a fortement baissé en novembre à cause d'un regain de pessimisme sur le niveau de vie et une crainte aussi concernant l'évolution du chômage. C'est ce qu'affirme ce matin l'INSEE. On fait une petite pause et dans un instant, l'invité d'RTL Midi, Pascal Canfin, directeur général du WWF France et qui siège au nouveau Haut Conseil pour le climat.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Et on revient sur le discours du chef de l'État sur la transition écologique avec notre invité Pascal Canfin, directeur général de l'association écologique WWF France. Bonjour.
Bonjour.
Avant d'évoquer le détail des annonces, vous siégez dans le nouveau Haut Conseil pour le climat. À quoi va-t-il servir ? Quelle est votre feuille de route ?
Il va servir, comme au Royaume-Uni, qui a l'équivalent, à fixer les règles, en quelque sorte, de trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre de manière scientifique et objective. Mm-hmm. Et ensuite, faire des propositions au gouvernement avec un certain nombre de mesures qui sont cohérentes par rapport à cet objectif scientifique. Le président de la République nous a parlé ce matin du fait qu'il voulait que ce Haut Conseil sur le climat soit une sorte de GIEC des solutions. Donc, le GIEC, c'est les scientifiques du climat. D'ailleurs, ce Haut Conseil est présidé par une des plus grandes climatologues françaises. Et donc, ce sera notre responsabilité d'objectiver le débat, de soumettre des propositions qui sont cohérentes avec l'accord de Paris. Et ensuite, charge évidemment au gouvernement d'assumer ou pas ces décisions.
Est-ce qu'il vous a demandé à vous aussi de concilier les problèmes de fin du monde et les problèmes de fin du mois, c'est-à-dire de faire des propositions qui soient aussi socialement acceptables?
La feuille de route, elle est à la fois sur l'exigence de cohérence par rapport au dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'aujourd'hui, nous ne tenons pas nos objectifs par rapport au climat. Et donc, ça doit changer. Mmh. Et le deuxième pilier, c'est la transition juste. À savoir que, de toute façon, cette transition climatique, en quelque sorte, elle ne se fera pas si elle n'est pas juste. Mmh. Donc, c'est l'addition des enjeux. Mmh. Pour ça, qu'il faut mettre en place une instance indépendante. Et bien donc,
oui, on a des petits problèmes de liaison.
Extérieure au gouvernement.
Oui, on a des tout petits problèmes de liaison, Pascal Canfin. Est-ce que vous nous entendez ? J'aurais bien voulu entendre votre réaction sur le nucléaire. 14 réacteurs qui vont fermer d'ici 2035, dont les deux de Fessenheim, ça va dans le bon sens.
C'est la première fois qu'un président de la République dit officiellement qu'il va y avoir de Fessenheim, de réacteurs pour atteindre l'objectif de 50% de nucléaire.
Je suis désolée, Pascal Canfin, de devoir vous interrompre, mais franchement, la ligne est trop mauvaise et ça n'arrête pas de couper. Merci en tout cas, on entend bien que vous nous disiez à l'instant que ça allait dans le bon sens, cette annonce de fermeture des réacteurs nucléaires. Pardon, et encore toutes nos excuses. On fait une nouvelle pause et dans un instant, les applis Waze ou encore Coyote vont pouvoir continuer à signaler les radars.
RTL Midi.
Avec Christelle Robière.
Le gouvernement a lâché du lest en faveur des automobilistes et cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec la pollution ou le prix des carburants. Il était question d'interdire, dans certaines situations, l'utilisation de ce qu'on appelle les avertisseurs de radar sur certaines applications que vous connaissez bien. Mais finalement, la mesure ne figure pas dans le projet de loi mobilité. C'est une information RTL que vous nous révélez, Christophe Bourg.
Oui, car les applications comme Coyote ou Waze peuvent non seulement, vous savez, anticiper les embouteillages, les zones de travaux, mais aussi la présence des policiers et gendarmes. L'idée est bien demander à ces applications d'occulter pendant 3 à 24 heures les alertes sur la présence des forces de l'ordre, dans certains cas comme un contrôle d'alcoolémie, une alerte enlèvement ou après un attentat. Or, l'article 24 du projet de loi mobilité qui concernait cette mesure a été retiré, selon Fabien Pierlot qui dirige Coyote.
Cette mesure a été retoquée parce que le gouvernement a eu plein de bon sens. Structurer ça de manière automatique en donnant la position des forces de l'ordre sur des serveurs qui vont communiquer avec nos sociétés nous paraissait très difficile techniquement à mettre en place.
Cette mesure semble donc retoquée, voire reportée à un moment où les automobilistes sont particulièrement remontés. Ces applications regroupent plus de 15 millions d'utilisateurs en France.
Christophe Bourreau. Au tribunal de Paris, David Hallyday et Laura Smet demandent en ce moment même le gel des royalties sur les albums de leur père. La part qui leur revient, 75%, en attendant que la question de l'héritage soit réglée. Au cours de l'audience, on a appris que la Bank of America, qui gérait le trust américain mis en place par Johnny et Laetitia, a abandonné son mandat. Un nouveau trust doit être nommé, ce qui va retarder encore plus un éventuel arrangement entre les différentes parties. La décision du tribunal des référés, en tout cas, sera rendue le 18 décembre. Des préservatifs remboursés sur prescription médicale. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, veut aider à la lutte contre le sida, alors que chaque année, 6000 nouveaux cas sont découverts, notamment chez les jeunes. C'est une première, Odile Pouget, qui va concerner une marque de préservatifs.
Oui, la marque Eden, lancée pour l'occasion par un petit laboratoire français, Majorelle, spécialisé en gynécologie et urologie. Il est le seul à avoir déposé une demande auprès de la commission d'évaluation des dispositifs médicaux. Et en juin dernier, il a reçu l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Alors à partir du 10 décembre, on pourra donc se procurer en pharmacie ces préservatifs sur ordonnance d'un médecin généraliste, d'un gynécologue ou d'une sage-femme. Le coût, 6 fois moins élevé que celui des préservatifs vendus actuellement, sera pris en charge à 60% par la Sécurité sociale. L'objectif, c'est bien sûr de renforcer la prévention des infections sexuellement transmissibles, le sida bien sûr, mais aussi syphilis, chlamydia, herpès génital, en nette augmentation ces dernières années, en raison de pratiques sexuelles à risque et du recul justement du préservatif. Alors tout le monde pourra bénéficier de ce remboursement, mais les jeunes, qui ont évidemment peu de moyens, sont particulièrement ciblés. On rappelle qu'un étudiant sur deux n'utilise pas de préservatif et que 75% seraient enclins à l'utiliser davantage en cas de remboursement.